Newby convincingly moving their way through the winner's bracket, and they will take the victory against VG Gaming here at TI4. 3-1 the victory over $5 million. They are your champions.
Alors, 21h22, ce que vous venez d'entendre n'est pas la fin d'un match de hockey, de soccer, de cricket ou encore de baseball. 3-1 la victoire, plus de 5 millions de dollars remportés. Non, il s'agissait de la fin d'une finale d'un tournoi de jeux vidéo. C'est des spectacles grandioses. On aura l'occasion de reparler un peu des infrastructures parce que, écoutez, ces tournois-là ont rien à envier au Super Bowl. C'est un spectacle incroyable. On est ce soir en pleine émission spéciale de Bonsoir les sportifs, spécial e-sports. On parle de compétition de jeux vidéo. Les gens, vous nous contactez via Twitter, via Facebook en utilisant le mot-clic BLS, donc le hashtag BLS pour Bonsoir les sportifs. Vous nous appelez aussi via le 790-9850 ou le 1-866-790-9850. On prend vos noms, on prend vos numéros de téléphone. Tantôt, on ira écouter vos témoignages, vos commentaires aussi. Étienne Veilleux et commentateur analyste de tournois de jeux vidéo. Merci d'être là ce soir. Et il y a aussi Paul Sands, directeur général de eSports Montréal, qui offre du support et qui développe des talents des jeunes qui, justement, performent dans le monde du jeu vidéo. C'est quoi une carrière d'un athlète en eSports?
Et c'est dur à dire, mais je crois que Montréal eSports font, c'est-à-dire développer les joueurs dès leur jeune âge, c'est exactement ça qu'il faut faire parce que c'est là qu'on va leur inculquer les bonnes habitudes et les bonnes façons d'apprendre. T'sais, on dit souvent apprendre à apprendre, c'est la bonne façon de pousser au niveau supérieur. C'est ça qu'on fait avec les jeunes parce que on a démontré qu'environ vers l'âge de 26, 27 ans, même 25 ans, on commence déjà à perdre en temps de réflexe.
Ben oui.
Et dans les jeux vidéo à l'extrême, donc dans les sports électroniques, on se rend compte que ces réflexes-là sont nécessaires et là, ça commence à être difficile.
La carrière d'un boxeur est, règle générale, souvent plus longue chez les poids lourds parce que la première chose qu'on perd en vieillissant, c'est la vitesse.
Oui.
Chez les poids lourds, ben, c'est pas nécessairement la vitesse qui est leur principal avantage. Donc, des carrières, d'après moi, autour de 25 ans...
Tu
deviens coach.
c'est presque ça. C'est non seulement les réflexes qu'on perd, mais c'est aussi l'homme ou l'humain, ça devient plus intelligent, donc devient plus sécuritaire. En vieillissant, on a habituellement plus de tendance à...
On prend moins de risques.
On prend moins de risques, exactement. Tandis que les jeunes, eux autres, n'ont pas peur... On ne peut pas froid aux yeux. Donc, ils foncent vers l'avant. Ils font des gestes ou des mouvements.
C'est vrai. Mais écoute, je suis plus jeune, mais j'ai joué depuis des années. Mais c'est vrai que on dirait que je trouve ça plus embêtant échouer dans un jeu vidéo aujourd'hui que ce l'était pour moi avant. On dirait que l'échec ou la non-réussite est plus difficile à prendre en ce moment que quand j'étais plus jeune. Vous dites quoi aux personnes qui vous disent « c'est pas un sport, c'est n'importe quoi, c'est des jeunes garçons, des jeunes filles en surplus de poids qui font rien d'autre que se bouger les pouces ».
C'est sûr que ça, c'est le cliché, mais je peux comprendre les gens qui font ces commentaires-là. Je viens, comme je disais un petit peu plus tôt, d'un milieu plus sportif. J'ai joué au hockey, au football toute ma vie. C'est difficile, mais il faut qu'on sorte de l'aspect physique de ce sport-là. Il y a d'autres sports. Est-ce que le golf est moins un sport que le football? Non, pas du tout. C'est juste parce que c'est moins physique, pas nécessairement. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un sport? C'est parce que l'hygiène de vie est extrêmement stricte pour un joueur qui veut performer au niveau supérieur. Il y a toutes les infrastructures autour des joueurs. On parle de coach, on parle de nutritionniste, de psychologue sportif. Il faut que les joueurs performent, il faut qu'ils soient meilleurs d'eux-mêmes, doivent faire de l'activité physique pour être à leur meilleur aussi. C'est aussi toutes les bourses, les commanditaires, le public qui est autour de ça, les millions de dollars de bourses, comme on mentionnait. Je veux dire, à titre comparatif, tu disais tantôt, Mathieu, le International tournoi de Dota 2 avec 21 millions, on parle même de 23 millions l'an dernier en bourse. Faire un comparatif, quand les joueurs des Patriots ont gagné le Super Bowl, ils ont gagné 107 000 $ chaque.
Et là, sauf qu'ils ont des contrats annuels, tous et chacun,
mais
de plusieurs millions.
Il y a des joueurs au sport électronique qui gagnent 300 000 par année aussi, là, les meilleurs au monde. C'est toujours, en termes de comparatif.
Il y a beaucoup d'argent en jeu, donc c'est normal qu'on prenne des moyens extraordinaires pour que ces jeunes-là performent. Est-ce que il y a des produits améliorants? Y a-tu des tests antidopage? Comment ça fonctionne? Parce qu'on parle d'hygiène de vie. Mm-hmm. S'il y a de l'argent, il va y avoir des gens qui vont vouloir se donner un avantage indu.
Exactement. En ce moment, il n'y a pas encore de loi. C'est très une discipline qui est encore très jeune, qui vient de rentrer, de percer le marché mondial et à travers même le Québec maintenant. Définitivement, il y a des drogues qui existent qui permettent de rester plus éveillé, des boissons énergisantes, justement, exemple, qui peut être détenir du caféine ou quoi que ce soit, qui, justement, essaie de donner une boost de sucre et d'énergie. Mais encore là, une fois, il y a un gros manque d'éducation. Les jeunes ne savent pas comment l'utiliser. Fait qu'ils vont boire beaucoup de boissons énergisantes avant un match. Est-ce que c'est vraiment la façon à faire? Est-ce que c'est mieux de manger et de se bien s'hydrater? Écoute, justement, oui, il y a des drogues qui existent. Ben, des drogues, on s'entend que c'est des drogues illégales, exactement.
Ouais, comme l'Adderall, par exemple.
Exactement, qui permet juste d'être plus éveillé, plus concentré exactement sur la situation. Il n'y a pas de loi qui empêche ou il n'y a pas de fédération encore, mais définitivement, on se dirige vers ça,
c'est exactement. Sûr et certain.
Par contre, un peu comme le cyclisme, il y a aussi le matériel qu'il faut inspecter. Tu sais, là, on parle avec oui. Le Tour de France, par exemple, d'inspecter les vélos avec des caméras thermographiques pour voir s'il n'y a pas un moteur.
Un moteur, mais
oui, c'est
ouais.
ça. Mais là, au niveau des jeux, des sports électroniques, il y a aussi, par exemple, des joueurs qui sont fait prendre en plein milieu. Il y a vraiment des cas qui ont été répertoriés là, dans le plein milieu d'un tournoi. Le système anti-triche détecte que, par exemple, dans la souris, il y avait un mini-logiciel qui faisait que la souris visait directement les ennemis.
Non.
Et où oui. On pouvait...
Un viseur automatique.
Il y a des joueurs qui peuvent voir les ennemis au travers des murs, donc on peut voir où est-ce qu'ils s'en viennent. Donc ça, c'est toutes des triches qui sont dans les logiciels, mais il y a des logiciels qui sont construits pour contrer ça.
Rappelons-nous la fameuse palette trop courbée ou encore oui. Le bâton avec du liège au baseball. Donc, il y a de la triche aussi matérielle. Quand vous développez du talent des jeunes, évidemment... ils doivent avoir aussi, on parlait d'hygiène de vie, mais un comportement aussi, un peu comme les sportifs quand on s'en va. Nous autres, il fallait marcher droit quand on est en tournoi.
Exactement, on essaie de leur inculquer les valeurs ou qu'ils regardent des coéquipiers. Tu dois respecter, vous devez jouer ensemble, en équipe. Chacun a un rôle, donc vous devez... Si vous ne travaillez pas en équipe, vous n'allez pas pouvoir performer. Lorsque vous avez fini un match, on voit les jeunes, ils se lèvent, ils se serrent la main à l'autre. Donc, toutes ces valeurs-là, ces comportements-là, on les voit déjà chez nos jeunes et on les aide justement à les pousser pour qu'ils continuent dans cette direction-là.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, si on est dans la grande région montréalaise ou dans les environs, on peut se tourner vers Montréal eSports si on a un jeune extrêmement talentueux. Si on est ailleurs au Québec, on dit quoi aux gens? Regardez aussi vers vos établissements scolaires parce que oui. Vous seriez surpris d'apprendre qu'il y a souvent des clubs qui se forment là aussi.
Oui, des clubs, par exemple, je pense au cégep de Matane qui a lancé son programme eSports il n'y a pas très longtemps et on est loin de Montréal. Mais c'est le fun de voir qu'on commence à germer un petit peu partout dans la province où les écoles se rendent compte que c'est même la directrice de l'école qui a voulu lancer ce programme-là, parler avec l'intervenante sociale. Donc, c'est vraiment construit de façon à encadrer les jeunes et on se rend compte qu'en faisant ça, les notes s'améliorent du côté des jeunes parce qu'on leur donne une raison d'aller à l'école. Ils sont motivés, ils sont obligés de faire leurs devoirs, d'avoir des bonnes notes et sinon, ils se font mettre dehors du club s'ils ne passent pas des cours. Donc, c'est une source de motivation pour ces jeunes-là, comme par exemple dans un sport-études au hockey où le jeune serait motivé parce que c'est son sport préféré.
C'est justement une des missions de notre organisation Montréal eSports pour justement rentrer dans les écoles. On parle avec des directeurs d'école en ce moment qui sont très intéressés à justement rentrer des programmes dans leurs écoles, que ce soit à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Il y a des écoles qui offrent des cours parascolaires, donc de soir ou de fin de semaine, des activités justement. Et notre mission, c'est vraiment de rentrer partout au Québec pour pouvoir offrir ce service-là vraiment à l'ensemble des Québécois.
Puis même si on dit que les joueurs qui jouent devant leur écran avec des personnes dans d'autres lieux physiques sont pas seuls parce qu'ils doivent se créer des stratégies, mais jouer quand même dans la même salle de cours, ben ça brise aussi d'un certain isolement. Puis s'il y en a un qui fait le moyen tombe, on est capable aussi de le savoir. D'ailleurs, si vous êtes responsable en milieu scolaire de programmes liés au e-sport, ça va nous faire plaisir de vous parler en cours d'émission. 514-790-9850 1-866-790-9850 Paul Sands, directeur général de Montréal eSports, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va continuer ce spécial eSports jusqu'à minuit. Étienne Veilleux, je te garde avec moi pour encore un petit bout de temps. Il y a plein d'autres aspects dont on on va parler. Après la pause, on va parler des tournois de jeux vidéo, les tournois au Québec, les tournois au Canada. Max Saint-Onge est un habitué de cette classique annuelle, c'est-à-dire ce Bonsoir les sportifs spécial e-sports. Il y a 4 ans, on parlait d'un tout petit tournoi qui s'appelait le LAN ETS. On sortait de l'École des technologies supérieures pour faire un tour du côté de la place Bonaventure. Et bien là, il y a d'autres défis qui l'attendent. C'est assez gargantuesque, donc restez avec nous. Spécial e-sports ce soir à Bonsoir les sportifs, sur tout le réseau Cogeco.